Europe 1.
À 8h17, vous recevez Bernard Poiretz, le député Les Républicains Éric Diard, auteur d'un rapport sur la radicalisation dans les services publics.
Merci Monsieur Diard d'être à ce micro ce matin, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, c'est très bizarre cette histoire-là. Avant-hier, jeudi, Monsieur Castaner, le ministre de l'Intérieur, dit « Ce monsieur-là qui a poignardé 4 collègues à la préfecture de police, il était nickel, aucun signe avant-coureur de radicalisation, etc. » Et hier, c'est le parquet antiterroriste qui se saisit de l'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Qu'est-ce qu'on a découvert?
Écoutez,
vous n'êtes pas en charge de l'enquête, mais vous savez des choses.
On a découvert que c'était un acte prémédité, que ce n'était pas un coup de folie.
Oui, il a acheté le couteau le matin même.
On a découvert qu'il avait des liens avec des personnes radicalisées, que cette personne s'est sûrement radicalisée. Par contre, bien évidemment, ce qu'on n'a pas découvert, c'est qu'il était radicalisé dans les services du renseignement de la préfecture de police. C'est-à-dire, au vu des éléments, il y a des habilitations, des contrôles qui sont faits pour ce renseignement tous les 5 ans, par la DGSI au départ, puis par l'IGPN, et je pense qu'il est passé à travers les mailles du filet.
Alors comment c'est possible? Il a été embauché en 2003. Si c'est tous les 5 ans, ça fait 2003, 2008, 2013, 2018. Ce qui reviendrait à dire qu'il y a 2 ans, même pas, il y a 1 an, on l'a repassé au crible et on n'a rien vu.
Écoutez, s'il est passé depuis 2 ans au crible, où il y a une faille du renseignement, où à cette époque-là, il n'était pas encore, j'allais dire, radicalisé. Ça, c'est l'enquête qui nous permettra de le dire.
Mais juste après Charlie Hebdo, il a fait des déclarations absolument insoutenables en disant « Tant mieux, ils les ont tous tués, c'est super ». Et là, on l'a repéré quand même.
Mais si cette information est avérée, il est impossible qu'on puisse laisser un tel individu à un poste aussi stratégique. Moi, j'ai eu à travers le rapport,
oui.
Il y a des policiers qui faisaient des atteintes à la laïcité, qui troublaient la neutralité du service public. Ces personnes-là étaient mises écartées. Alors, pour évoquer, il faut d'autres éléments, mais déjà, on leur mettait à des postes plus subalternes. Bon, il n'est pas armé, on leur enlève l'arme, on les met dans des bureaux, mais dans des bureaux qui sont évidemment pas du tout stratégiques.
Parce que ce gars-là, tout de même, il avait accès à tous les fichiers des policiers les plus sensibles de la République, en quelque sorte. Donc il a pu communiquer ces informations. S'il était effectivement radicalisé, elles sont sur la voie publique, toutes ces infos, maintenant.
Mais il y a 2 éléments. Premièrement, l'enquête devra déterminer comment cet individu s'est radicalisé. Est-ce que c'est par des réseaux sociaux? Est-ce que c'est...
Par la mosquée?
Par la mosquée, alors... Peut-être pas de Gonesse, mais peut-être qu'il avait des relations avec une mosquée plus fondamentaliste. Est-ce que c'est par un entourage? Et ensuite, cette personne-là, quand même, était informaticien d'un site très sensible. Et a-t-il divulgué des informations stratégiques à des personnes à l'extérieur?
Mais ils sont combien, ces gars-là, possiblement radicalisés dans les arcanes les plus profondes de la République? Des dizaines, des unités, des centaines, selon votre rapport? Ils sont combien?
Écoutez, sur le rapport par rapport, on en reste à la police. Sur la police, sur les 150 000 policiers, le directeur général de la police nationale, M. Éric Morvan, disait « Nous en identifions une quinzaine qui sont suivis pour radicalisation. » une trentaine, je dirais plutôt.
Oui.
Bon, alors, et ensuite, au niveau par contre de la préfecture de police, 43 000 agents, là, une quinzaine étaient suivis pour radicalisation.
Mais pas celui-là, Michael Harpon.
Je pense que ce n'est pas possible qu'il soit suivi à un poste aussi stratégique. Quand on a un poste stratégique, on est habilité défense, évidemment, on n'a aucun lien, ni de près, ni de loin, avec des courants fondamentalistes de l'islam.
Donc il est passé entre ce que vous appelez les trous de la raquette. Il était dans les trous de la raquette, visiblement. S'il est avéré qu'il est fondamentaliste, bien évidemment. L'enquête le dira.
Écoutez, moi, quand je suis à l'initiative de cette mission, et quand j'ai fait cette mission, je me suis lancé, c'est parce que j'avais auditionné des policiers qui me disaient « L'État adapte sa riposte, surtout depuis les attentats de 2015, mais il reste des trous dans la raquette. » Et malheureusement, cette histoire le prouve, et c'est grave.
Mais alors, comment analysez-vous la réaction de M. Castaner, pour ne pas le citer, jeudi midi, ainsi que du préfet de police de Paris, M. Lallemand, qui disent tout de suite aux caméras en disant « Ce gars-là, nickel, il est blanc comme neige, enfin en l'occurrence, il était d'origine martiniquaise, mais le problème n'est pas là. » Ils disent « Il n'a rien à se reprocher, il est passé au crible, il est nickel. »
Écoutez,
ils savaient ça.
Moi non, je pense qu'on a donné des renseignements erronés au préfet de police et au ministre de l'Intérieur, on leur a dit, écoutez, nous, ce type, on n'a aucun élément prouvant que ce type se soit radicalisé. Et puis après, quand même, vous vous apercevez quand même qu'il a fait l'apologie du terrorisme. Mmh. Il semble-t-il, à travers les réseaux sociaux, là aussi, je suis étonné, une personne de cette importance, même avec un pseudo, ne doit pas être sur le réseau social parce qu'il est complètement habilité défense. Il est sur un site très sensible. Donc, il y a vraiment des failles grave du système, et l'enquête va montrer où c'est que cela a péché.
Alors, est-ce qu'il vous semble, Monsieur Diard, tout de même, que depuis 2015 et la tragédie de Charlie Hebdo, puis le Bataclan, puis Nice, etc., il y a eu quand même beaucoup de travail qui a été fait pour épurer justement les services publics qui pouvaient être confrontés à ce genre d'infiltration?
Écoutez,
il y a du mieux, non?
Il y a du mieux, mais pourquoi, moi, à travers cette mission et ces 60 heures d'audition, qu'est-ce que j'ai vu? C'est que, évidemment, les attentats de 2015 et 2016 ont été une vaste prise de conscience dans les services publics, en disant, écoutez, là, on peut plus faire comme avant, on peut plus mettre la poussière sur le tapis, il faut réagir. Alors, tout le monde a réagi. Évidemment, les services régaliens, police, et surtout quand même les gendarmes et les militaires, qui eux ont une notion du renseignement, qui vivent dans un univers plus confiné, l'information remonte très vite, eux se sont adaptés très rapidement. La police, un peu moins facilement, mais quand même, a commencé à adapter sa riposte. Mais si vous voulez, il y avait quand même un décalage. C'est-à-dire, pendant des années, on a fermé les yeux sur les atteintes à la laïcité, sur le prosélytisme, pour ne pas être justement taxé de racisme.
Oui.
Voilà, et malheureusement, cette lâcheté est aujourd'hui coupable.
Cette période est révolue, c'est fini ça.
Cette période est bien
avant. Les gars qui sont identifiés sont au moins écartés, c'est clair.
Vous imaginez, avec tous les attentats, et même dans les transports publics, où là ça, c'est plus difficile aussi, mais le communautarisme, quand on a vu qu'il y avait un ancien conducteur de la RATP qui était un des auteurs du Bataclan, évidemment, ça a suscité des réactions.
Bon, mais donc, on revient à ce monsieur, Michael Harpon, donc, qui a péri jeudi midi puisqu'il a été abattu par un collègue de la police dans la cour de l'APP. Donc ce gars-là, visiblement, soit il était parfaitement qualifié et on ne l'a pas repéré, soit s'il a été repéré, il y a eu une erreur qui a été commise à son égard, c'est clair. Il y a un problème politique, il aurait dû être écarté, il ne pouvait pas rester à ce poste.
Si les éléments sont avérés sur justement l'apologie du terrorisme ou son entourage qui était... Là, il y a une faute, il y a une erreur grave dans le renseignement. Par contre, il pouvait avoir, par contre, faire la taquia, c'est-à-dire la dissimulation, et se cacher, ce qu'il a fait pendant, à mon avis, des mois, avec ses collègues, ne pas montrer, justement, qu'il s'était radicalisé.
Un dernier mot, Éric Diard, est-ce que vous pensez que politiquement parlant, ça peut être meurtrier pour l'exécutif actuel? D'ailleurs, l'extrême droite s'est engouffrée dans la brèche des hier en demandant la démission de Castaner, etc., etc. Est-ce que ça pourrait être redoutable?
Ça va être une affaire qui va être difficile, je pense, pour le gouvernement, mais pour les services de police. C'est-à-dire que les services de police, face aux attentats, avaient adapter leur riposte, mais c'était insuffisant. Et quand je vous dis qu'ils ont adapté leur riposte, il y a d'autres secteurs, je pense dans le milieu du sport, dans le milieu de l'université, dans le milieu des hôpitaux, où là, la riposte est beaucoup plus faible et la radicalisation est beaucoup plus avancée.
Merci beaucoup Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, donc qui est l'auteur d'un rapport sur la radicalisation dans les services publics, rapport qui date de juin 2019, donc qui est malheureusement tout frais, il y a 3 mois seulement. Je vous souhaite un très bon week-end, monsieur Diard.
Merci
infiniment.